Chers amis, lors de notre dernier entretien, nous avons examiné ce qui se passait à la sixième trompette et nous avons compris qu'il s'agissait d'une guerre de très grande amplitude au Moyen-Orient. Cela n'a rien d'étonnant. Le Moyen-Orient vit sur une poudrière, mais j'aimerais tenter un parallèle avec un autre texte des prophéties. Un texte du livre du prophète Daniel qui nous parle aussi d'une guerre au Moyen-Orient. Et nous allons essayer de voir si, par hasard, ces deux textes ne nous parleraient pas de la même chose. Et donc, je vous invite à lire avec moi un texte qui se trouve au chapitre 11 du livre de Daniel, à la fin du chapitre, les versets 40 à 45. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à sa fin sans que personne lui soit à l'aide. Alors voilà un texte qui, sorti de son contexte, est bien difficile à interpréter, mais on va essayer d'en dresser les grandes lignes. Ce texte nous parle d'un affrontement entre le roi du Nord et le roi du Sud. En réalité, le début du chapitre 11 nous parle des affrontements entre le roi du Nord et le roi du Sud, mais à la période hellénistique, c'est-à-dire à la période de ceux qui ont succédé à Alexandre le Grand. Vous savez qu'Alexandre le Grand a établi un royaume considérable qui allait de la Grèce jusqu'à l'Inde, et que ce sont ensuite ses généraux, les Diadoques, qui se sont partagés ce royaume. Quatre royaumes, en gros, sont issus de cet immense royaume d'Alexandre le Grand. Mais les deux plus grands ont été ce que l'on appelle par la suite, dans la suite du texte, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord était tenu au départ par Séleucus et a donné toute la suite aux Séleucides. Et les rois s'appelaient en général Séleucus ou Antiochus, parfois Démétrius, alors que le royaume du Sud était tenu par les Ptolémées et n'était autre que l'Égypte. Et le dernier roi ou la dernière reine de cette lignée fut Cléopâtre. Pendant toute cette période et avant que l'Empire romain ne fasse table rase de tout cela et n'englobe tout cela, les deux royaumes du Nord et du Sud se sont combattus. Nous sommes là dans l'histoire, mais vous avez vu ce que dit le texte, au temps de la fin. Ce qui nous laisse entendre que, au temps de la fin, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura là encore un affrontement au Moyen-Orient entre les pays qui étaient représentés par l'Empire Séleucide, qui s'étendait de la Turquie à l'Inde, de l'Asie mineure à l'Inde, et l'Égypte, au sud. Que nous dit en gros ce texte-là? Il nous dit que le royaume du Nord sera aidé par les Libyens et les Éthiopiens. Il nous dit que ce royaume du Nord envahira le plus beau des pays. Et le plus beau des pays, c'est celui de Daniel. Bien évidemment, c'est la terre d'Israël, c'est la Palestine. Et il envahira également l'Égypte. Puis, j'ai oublié quelqu'un, quelqu'un a une neutralité là-dedans. Édom, Moab, les enfants d'Ammon. Cela représente le territoire occupé actuellement par la Jordanie. Et il faut reconnaître que la Jordanie essaie de maintenir un statut d'équilibre entre les différentes forces en présence au Moyen-Orient. Bref, la situation géopolitique décrite par ce texte-là est assez proche de la situation actuelle. Guerre au Moyen-Orient. Mais elle se termine comment? Le texte de Daniel est plus précis là. Il va nous dire que ce royaume du Nord va être obligé de se retirer. Après avoir envahi Israël, après avoir envahi l'Égypte et avoir fait main basse sur l'or de l'Égypte, il se retire et il va arriver à sa fin sans que personne lui soit en aide. C'est-à-dire que cette immense armada va être obligé de rebrousser chemin, de se replier et va arriver à sa propre fin. Alors, par des querelles internes, par des phénomènes naturels, par des phénomènes de famine, on peut tout imaginer, le texte ne nous le dit pas. Mais voilà comment se terminerait cet affrontement. Maintenant, qu'est-ce qui permet de rapprocher ce texte-là, cette guerre au Moyen-Orient, du texte que nous avons vu avec la sixième trompette? Eh bien, ils ont beaucoup plus de points communs qu'on ne l'imagine. Le premier point commun, c'est que tous les deux se tiennent au Moyen-Orient et que le territoire du royaume du Nord, le territoire qu'occupait Nebuchadnezzar, n'est pas très éloigné du territoire qu'occupait Séleucus, le général d'Alexandre le Grand. C'est donc tous les royaumes qui sont situés au nord d'Israël, en partant de la Turquie, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, jusqu'aux frontières de l'Inde. Donc, un des protagonistes est assez bien ciblé. Le deuxième élément qui me paraît important se trouve dans le temps. Et j'aimerais vous faire sentir cette chose-là, parce que dans le texte même de Daniel, nous avons des éléments chronologiques que j'aimerais souligner. Il nous est dit, au verset 40, « au temps de la fin ». Donc on sait que c'est dans les derniers temps. Mais c'est plus précis que ça, car si nous lisons le premier verset du chapitre 12, nous lisons ceci. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Chapitre 11, verset 40, « Au temps de la fin. » Chapitre 12, verset 1er, « En ce temps-là. » C'est-à-dire que immédiatement après se passent les événements qui nous sont décrits là. Et il nous est dit que Michaël se lève. Alors Michaël, vous le connaissez maintenant, c'est le nom de guerre de Jésus. C'est celui qui dit « mais qui donc est comme Dieu ?» Et à ce moment-là, s'il se lève, c'est que sa guerre avec l'ennemi touche à sa fin, parce que le service se termine. Alors la guerre durera jusqu'au bout. Mais le fait de dire que Michaël se lève montre que le service dans le sanctuaire est terminé. Et à ce moment-là arrive un temps de détresse que l'on peut très bien comparer au temps des coupes dans l'Apocalypse. J'aimerais vous montrer qu'on a la même chose dans l'Apocalypse avec la septième trompette. Et je vous invite à lire avec moi au chapitre 11, à partir du verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Qu'est-ce que ce royaume? Ou plutôt, qui est ce royaume? Est-ce que les élus ne sont pas ce royaume? Et donc on remet à Christ son royaume. Mais comment pourrait-on le lui remettre si on ne sait pas encore qui en fait partie? Et si on sait qui en fait partie, c'est que le jugement de la maison de Dieu est terminé. Le jugement est fini. La chose nous est confirmée à la fin du chapitre. Regardez ce qui est dit au verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Si le temple est ouvert, cela évoque ce qui s'est passé à la mort de Jésus. Et vous savez sans doute qu'à la mort de Jésus, le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré, déchiré de haut en bas. Ce n'est pas une main humaine qui a pu faire cela. C'est Dieu qui a déchiré ce voile. Il montrait ainsi que le service dans le sanctuaire terrestre était terminé. Eh bien, l'ouverture maintenant dans le sanctuaire qui permet de voir l'arche, qui permet d'aller jusque dans le lieu très saint, nous indique clairement que le service est terminé. Qu'on soit dans Daniel avec Michaël qui se lève, ou que l'on soit dans l'Apocalypse avec l'arche qui est vue, ça a la même signification, le service est terminé. En conséquence, ce qui se passe dans le livre de Daniel comme dans le livre de l'Apocalypse, c'est que cette guerre au Moyen-Orient nous est présentée comme le dernier jalon chronologique avant la fin du service. Dieu nous donne là une indication précieuse. Avant que le service ne se termine, il y aura une guerre au Moyen-Orient. Alors, je n'en connais pas les détails, et il y a encore des choses imprécises, mais c'est quand même un repère et un jalon intéressant. Et au moins, nous avons un point de départ très précis, puisque vous le savez, toutes les armées étaient prêtes pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ce qui veut dire que cette guerre a un point de départ extrêmement précis, au jour près, à l'heure près. Maintenant, avançons un petit peu. Premier lien entre les deux, une guerre au Moyen-Orient. Deuxième lien, les deux sont un jalon juste avant la fin du service de Jésus dans le sanctuaire céleste. Troisième point. Cette guerre fait de nombreux morts. Elle est extrêmement destructrice. Les deux textes nous le disent. Elle engage énormément de monde. Et par conséquent, nous avons là un élément supplémentaire pour nous dire que cette guerre est extrêmement meurtrière. Alors, tous ces éléments nous disent probablement que c'est la même guerre. Et j'aimerais avancer encore un petit peu là, dans cette direction, en vous montrant qu'il y a peut-être d'autres éléments qui vont suivre et qui vont nous permettre de mieux comprendre le lien qu'il y a ici entre le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Parce qu'à l'intérieur même de cette prophétie sur la sixième trompette, vous avez un supplément. Et ce supplément, il va nous être donné avec les chapitres 10 et le début du chapitre 11, le livre, le petit livre ouvert et les deux témoins. Et tout cela se tient dans le temps de la sixième trompette. Et pour ce qui concerne le livre de Daniel, eh bien nous avons un addendum au livre de Daniel. Et j'aimerais vous entraîner là, alors que la prophétie semble terminée, qu'on en est arrivé aux événements terribles qui peuvent être décrits par les coupes, j'aimerais vous montrer que le livre de Daniel lui-même nous amène jusqu'au moment du retour de Christ, parce qu'il nous parle de résurrection. Lisons ceci. Daniel, chapitre 12, verset 2. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » La résurrection nous est clairement indiquée ici. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse détaillée de ce texte-là, mais il est question de résurrection. Et il nous est également dit que pendant ce temps, ceux qui auront été intelligents, oh, ne pensez pas qu'il faut être diplômé d'Harvard ou de Polytechnique pour prêcher là. L'intelligence, c'est celle du cœur, ceux qui ont du discernement. Alors, ceux-là enseigneront la multitude. Et il faut comprendre que tout à fait à la fin, des hommes de Dieu, des hommes de cœur, seront parmi ceux qui donneront un dernier message. Je vous avais dit que la sixième trompette était un dernier message. Eh bien, c'est le dernier appel, mais à l'intérieur de cet appel, il y a un ultime appel. Ça, c'est ce que nous verrons lors de notre prochain entretien. Pour l'instant, retenons que il y a là un supplément à la prophétie que je vais vous lire maintenant. Alors que le texte nous a parlé de résurrection, au verset 4, Dieu va donner à Daniel un supplément d'information. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Voilà donc un supplément d'information qui va être donné. Et là suivent quelques versets qui nous disent ceci. « Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux hommes se tenaient, debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. » Je poursuis. « L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin. » Nous retrouvons l'homme vêtu de lin que nous avions déjà vu, celui qui était déjà apparu, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges ? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ainsi donc, Dieu annonce que là, il y a une prophétie cachée, secrète, qui sera révélée au dernier moment. Et cette prophétie-là, ce supplément d'informations qui se trouve dans le livre de Daniel, eh bien nous le retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse, sous la forme du livre ouvert et des deux témoins. Alors voyez, il y a énormément de ressemblances entre ces deux textes. Et c'est pourquoi je me suis permis de les rapprocher. Je crois qu'il nous faut être attentifs à la prophétie. Nous n'en comprenons pas tous les éléments. Mais vous voyez, quand Siméon le prophète ou Anne la prophétesse annonçait à Marie ce qui allait arriver à Jésus, croyez-vous qu'elle comprenait tout ce qui lui était dit? Certainement pas, mais elle gardait ces choses dans son cœur. Alors nous ne comprenons pas tout ce que nous dit la prophétie, mais gardons-les dans notre cœur. Et l'apôtre Pierre nous dit que la prophétie est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur pour nous éclairer. Est-ce que nous voulons avancer là? Et si nous sommes ensemble maintenant, c'est bien parce que vous vous intéressez à la prophétie. On ne comprend pas tout, mais on la garde dans notre cœur. Et le moment venu, les choses s'éclaireront.